L'interview Maïmo, Corentin Brabant sur Radio Imo.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et dans ce nouvel épisode de l'interview, une émission produite par Maïmo, le pôle d'innovation de l'immobilier. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un regard externe avec David Lestoux. Bonjour David.
Bonjour Corentin.
Alors David, tu es urbaniste, sociologue et fondateur de l'agence LA, comme Lestoux et Associés, hein, l'agence qui accompagne la transformation des villes et des territoires. Alors merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Avec toi, on va décrypter un peu un changement de modèle social qui va, selon tes travaux, bouleverser la façon dont on conçoit et on gère la ville. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons juste un petit peu sur ton parcours pour mieux te connaître. Début des années 90, tu travailles dans une agence où tu fais tes premières missions d'études sur les transformations des territoires et les nouveaux modes de consommation. En 2015, tu publies un rapport « Revitaliser son cœur de ville et l'adapter au commerce de demain », qui est ton premier ouvrage et qui est un ouvrage de référence sur les centres-villes. Donc en 2017, tu crées ton agence Lestoux et Associés, agence de prospective et de programmation urbaine pour imaginer les espaces de vie et de commerce de demain. En 2018, tu es rédacteur du rapport national sur les centres-villes et contributeur au programme Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain. Tu es notamment depuis 2019 conférencier et expert Europe APM sur la transformation des modes de vie. Tu accompagnes les collectivités foncières et promoteurs dans leur stratégie de revitalisation. Alors tu as écrit en 2022 un livre qui s'appelle « Préparer aujourd'hui le centre-ville de demain, l'adapter aux nouveaux usages » et tu es en train de terminer ton troisième livre dont on attend le titre avec impatience. Alors première question, David, qu'est-ce que tu retiens de ces 30 années à observer l'évolution des modes de vie d'une manière générale selon différents marqueurs?
Ce que je retiens depuis 30 ans, déjà 30 ans, c'est que sur la période, on va dire 90, que je connais jusque 2010-2012, on a eu un continuum sociétal, c'est-à-dire des modes de vie, des modes de consommation qui ont évolué, bien évidemment, ils ont évolué, mais qui ont évolué gentiment et de manière assez linéaire. Et puis, dans la décennie 2010-2020, on a vu des nouveaux usages qui sont arrivés. On a vu des nouveaux profils de citoyens et puis on a eu aussi le digital qui est venu bousculer beaucoup la relation du citoyen au territoire, le citoyen à la consommation. Les modes de vie se sont structurés autour de cela. Bon, voilà, continuum. Mais par contre, ce que je constate maintenant sur la dernière période, 2020-2025, c'est qu'on a une accélération des transformations sans précédent. Je prends souvent comme exemple que cette période de transformation que nous vivons aujourd'hui, elle est de la même puissance que celle que l'on a vécue, même si je n'étais pas très âgé à cette époque-là, entre 1968 et 1973. Pendant ces cinq années-là, tout a changé. On a eu des nouveaux citoyens, donc des nouveaux consommateurs, donc des nouveaux résidents qui sont arrivés sur les territoires. C'était les baby-boomers, hein, celles et ceux qui sont nés après la guerre.
Après la guerre, tout à fait.
Qui ont fait changer le monde. Alors, pas combien, mais ils ont fait changer le monde parce qu'ils sont arrivés avec des nouveaux modes de vie. Bon. Entre 68 et 73, il y a eu des changements de mobilité assez colossaux. 68, on avait 0,5 voiture par ménage. En 73, on s'est retrouvé avec une voiture et demie par ménage. Et c'est là qu'on s'est mis d'ailleurs à commencer à construire la ville, moins par rapport à la proximité, mais plus par rapport à l'utilisation de l'automobile. Et c'est là qu'on a commencé à étaler les villes d'ailleurs. 68-73, des nouveaux modes de consommation. On a connu les premiers supermarchés, les premiers hypermarchés, même si le premier hypermarché a été créé en 63. Mais néanmoins, c'est là qu'il y a eu la période d'expansion la plus importante. Et puis, si on rajoute à ça la crise pétrolière de 73, un choc sur l'énergie et donc un choc sur le pouvoir d'achat, et une augmentation de ce qu'on a appelé les dépenses contraintes, l'énergie, dans le budget des ménages. Et 60, il y a eu un avant 68, il y a eu un après 73, et qui ont été radicalement différents l'un et l'autre. Parce que le monde s'est organisé autrement, politiquement aussi, de la même manière. Et puis, si je regarde la période 2020-2025...
On a plutôt l'impression que c'est l'inverse, justement. On parle de croissance des hypermarchés, des supermarchés, on parle de voitures. J'ai l'impression que plutôt dans la période actuelle, on est plutôt à l'inverse de ces tendances-là.
Exactement. À l'inverse, certes, mais même changement de modèle. Ouais. Cinq années, de la même manière, 2020-2025, on aura connu un avant 2020, tous ensemble, et on connaîtra tous ensemble.
Mais j'imagine
un après 2025, avec d'autres marqueurs, très clairement. Parce que pendant ces cinq ans, il y a des nouveaux citoyens qui sont arrivés, on en parlera tout à l'heure, il y a des nouveaux modes de consommation avec le digital qui sont installés, avec des changements aussi puissants que lorsque les hypermarchés sont arrivés. on a une crise de l'énergie qui est venue peser sur le pouvoir d'achat. Et puis, finalement, on a des mobilités, comme tu viens de le dire, qui ont commencé à changer, puisque c'est la première période 2020-2025 où le nombre de voitures par ménage commence à baisser. Donc, c'est 5 années charnières. Et puis, comme 68-73, on voit qu'on a un changement de modèle sociétal qui entraîne aussi un changement de modèle politique. Donc, on est vraiment dans des changements extrêmement profonds. Ce n'est pas des effets de mode, ce n'est pas lié simplement au digital, à la concurrence de telle chose. Non, c'est que profondément, la société change.
On le voit bien, effectivement, tu parlais de génération, parce qu'on parle souvent de génération Z, mais comment justement cette génération, elle change profondément, elle a un impact sur la société d'aujourd'hui et de demain?
La génération Z, moi je les compare beaucoup aux baby-boomers. Premièrement parce qu'ils représentent une génération importante. Autant c'est une génération qui n'a pas beaucoup envie d'enfants, autant ils sont issus d'une génération où il y a eu une très forte natalité. Donc, si on regarde, par exemple, à l'échelle de la Mel, à l'échelle même de la région des Hauts-de-France, qui est l'une des régions les plus jeunes de France, on aura à 2030, entre 30 et 35, 25% de la population qui sera issue de la génération Z et des générations suivantes. Donc, on ne parle pas de 2-3% qui vont faire un peu varier des marges. Non, on parle d'un quart de la population. Oui. Et une génération qui arrive, comme les baby-boomers d'ailleurs à l'époque, qui sont arrivés avec la voiture, les réfrigérateurs, etc., la maison individuelle, eh ben, la génération Z, elle arrive avec une caractéristique, c'est la première génération qui a moins le permis de conduire que la génération précédente. Bon.
Oui, donc elle fait des mobilités, du blabla car.
Exactement. Exactement,
la mobilité.
Exactement. Et puis surtout, elle va avoir un territoire de vie qu'elle ne va pas souhaiter extrêmement extensif. C'est-à-dire que la moyenne française, c'est à peu près 1h10 de déplacement quotidien, trajet, domicile, travail. Et j'exclus la région parisienne dans cette moyenne-là, qui la ferait remonter. Mais c'est une génération Z qui n'a pas envie de cela. Parce qu'elle n'a pas de voiture, et 1h10, c'est le temps de la voiture. Alors ça peut être le temps aussi du transport en commun, bien évidemment. Mais c'est une génération qui va vouloir avoir finalement un écosystème de proximité, travail, loisirs, habitat, dans un cercle beaucoup plus restreint. Donc, elle va bouleverser. Et elle va bouleverser à la fois l'organisation de l'habitat à l'échelle d'un territoire. Elle va bouleverser le supermarché ou l'hypermarché qui est juste dans une logique de captation des flux automobiles. Donc, on voit que ça va pas fonctionner.
Justement, au niveau de l'habitat, quel impact ça a sur leur façon de vivre et de consommer l'habitat cette génération? Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes références que nous, on a pu avoir, les mêmes modes de vie, mais... Quel impact ça a justement sur leur habitat?
Alors, en termes d'habitat, on voit que cette génération Z, c'est une génération qui va plutôt apprécier d'habiter dans une zone urbaine un peu plus dense, pour la proximité des services, mais qui en même temps va vouloir trouver dans les services des vraies offres de loisirs, des vraies offres de convivialité, c'est-à-dire que l'aménagement de l'espace public dans sa capacité à créer de la convivialité sera extrêmement important. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une génération individualiste. On veut stigmatiser et résumer la génération Z à quelqu'un sur un smartphone ou une tablette. Oui, bien sûr, mais ils ont beaucoup plus d'interactions sociales que les générations précédentes. Et ces interactions sociales, elles ne sont pas que digitales. Elles sont beaucoup aussi dans la convivialité. C'est la génération qui consomme le plus dans les bars, dans les restaurants, dans les loisirs depuis bien des générations.
Donc le premier critère, excuse-moi, je me verrai, mais le premier critère du coup de choix du logement ne sera plus le logement, maintenant ce sera le quartier, j'imagine.
Exactement, ouais. Exactement. Ça sera le quartier, ça sera la capacité à être proche de son lieu de travail ou éventuellement proche d'une gare, y compris une gare TER ou une gare TGV qui va permettre aussi d'être connecté à d'autres villes. Donc c'est d'autres mobilités. Mais surtout, ce qui va bouleverser le plus, c'est qu'on a construit toujours les mobilités sur les territoires en pensant d'abord à la logique automobile. Ça s'est construit comme ça depuis plus de 50 ans. Et là, il va falloir avoir une autre relation au territoire et donc une autre relation aux mobilités.
Et on parle de génération Z, mais il y a aussi une autre génération, peut-être un petit peu plus âgée que la génération Z, qui risque d'avoir un impact sur la façon de façonner les villes. C'est la Silver Economy, Senior Economy, on dit, il est double dog, mais
voilà, plus, non. Moi je dis Senior Economy, effectivement. Ça, c'est aussi un choc sociologique. Et on voit bien qu'on est bien dans un changement de modèle sociétal. Quand tout à l'heure tu me disais 30 ans en arrière depuis 90, ben dans les années 90, on avait quoi? 15-20% de la population qui avait plus de 60 ans. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, On est plutôt aux alentours sur la région ici des Hauts-de-France à 35%. Et si on tire le fil à 2035, on sera aux alentours de 40% de la population qui aura plus de 60 ans, dont la moitié plus de 90 ans.
Et quand même.
Non, dont la moitié, pardon, plus de 80 ans, et la moitié de la moitié plus de 90 ans, pardon. Donc ça veut dire 20% de plus de 80 ans et 10% de plus de 90 ans. C'est un choc énorme.
Ouais.
C'est une révolution, c'est une transformation sociétale. Et je ne suis pas sûr que l'on ait anticipé, en termes d'habitat, en termes d'organisation, cette évolution-là. C'est un choc important. Et puis, le vieillissement, ce n'est pas que l'EHPAD. Hein. Le vieillissement, c'est comment j'ai des alternatives à la grande maison parce que je veux être plus près des services et parce que je n'ai pas envie d'entretenir mon jardin. C'est la première étape. Et puis après, comment je vais passer peut-être dans une résidence avec quelques services non médicalisés. Et puis après, je vais peut-être avoir la résidence médicalisée. Mais c'est ça qu'il va falloir qu'on réinvente. Là où nous avions précédemment une ou deux étapes de parcours résidentiel chez les seniors dans les années 90, maintenant on risque d'avoir 3-4 étapes de parcours résidentiel. Donc des besoins immobiliers qui vont être très très différents. Avec toute la limite, c'est la limite de la faisabilité économique de ces modèles immobiliers qu'il va falloir trouver. Je ne dis pas qu'elle existe, mais en tout cas, on est face à un défi majeur du vieillissement de la population et je ne suis pas sûr qu'on l'ait intégré à sa pleine mesure dans les stratégies d'aménagement du territoire.
Et comment justement on peut rattraper un peu ce retard? Quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir justement pour transformer nos villes, pour les adapter à ces nouveaux types de populations?
Alors je pense qu'il y a quelque chose qui va s'imposer de lui-même et qui va nous aider. Je vais parler du ZAN, le zéro artificialisation net, qui s'appelle ZAD ou il s'appelle RATRACE, ouais, on ne sait rien. Mais finalement, la construction d'une ville qui s'étend moins sera une réponse. Puisqu'on va recréer des proximités, parce que la génération Z est une génération qui cherche la proximité, et la senior economy, de facto, ça sera une génération qui va chercher la proximité aussi. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Ensuite, il va falloir avoir une réponse concertée entre le public et le privé,
oui,
pour être capable de produire ces logements-là.
De produire, même si tu le disais en préparant cette émission, que 80% des logements de 2050 sont déjà construits.
Exactement. Ouais. Exactement. C'est exactement
produire
ça.
Et transformer.
Ouais, produire, ouais, et transformer. Donc être capable peut-être de transformer, on en parlait tout à l'heure, des immeubles de bureaux, mm-hmm, en nouvelles formes de résidences seniors. Et puis après, ça peut être simplement des résidences avec un peu de services, mais dans lesquelles on trouve des générations Z et des seniors. Ce n'est pas incompatible. Puisque, d'ailleurs, je me rends compte, les deux générations se ressemblent un peu sur la recherche de la proximité et le besoin de convivialité et d'être ensemble. Donc, on peut imaginer aussi des formes. On n'est pas obligé de faire rentrer les gens dans des cases et un peu de ghettoiser. On peut aussi faire preuve de transversalité.
Faire un peu d'intergénérationnel. Alors, on en parle beaucoup. On n'a pas encore vu de modèle émerger dessus, mais C'est des sujets vers lesquels il faut aller et casser un petit peu les codes, arrêter de ghettoiser tout le monde.
Oui, mais c'est effectivement, je pense que la période de transformation intense que nous vivons va nous obliger à imaginer, à faire preuve de créativité, à faire preuve d'agilité. Parce que souvent, pour construire l'avenir, on se réfère au passé. Là, on arrive dans un nouveau modèle. Donc, il va falloir expérimenter. Il va falloir être capable de tester. Certainement aussi, peut-être de se tromper, bien évidemment, mais on a un sujet d'innovation et je dis souvent, tout change, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a des opportunités qui sont là quand même.
Oui, des opportunités. Est-ce que tu parlais de bureaux tout à l'heure? Je crois qu'il y a un chiffre que j'ai oublié, mais si ça ne t'embête pas de me le rappeler, c'est justement quelles vont être la part des logements, des bureaux inoccupés dans les années à venir par rapport justement au changement de mode d'usage, aux réductions des superficies.
Ouais, sur les bureaux, en fait, on a deux phénomènes sur les bureaux. On a eu un premier phénomène, comme sur l'immobilier commercial d'ailleurs, de surproduction de bureaux ces dernières années. C'est-à-dire que quand on voit sur tous les territoires sur lesquels je peux travailler en France, on a des mètres carrés de tertiaire qui ont progressé à peu près 2 à 3 fois plus vite que l'emploi dans le tertiaire.
Et pourquoi on a construit autant de bureaux, justement, selon toi?
Ben, je pense qu'on a eu une bulle immobilière, ouais, sur le bureau, très clairement. Et puis de l'autre, on s'est dit, mais finalement, dans les opérations de renouvellement urbain, ça peut être bien de mettre du bureau, en disant, voilà, ça va remettre des actifs, et ça permet de faire des quartiers qui ne soient pas monofonctionnels avec des gens qui ne sont là que le soir et le matin, et de remettre de la vie. Mais sauf qu'en le faisant à un rythme certainement plus intense que la création d'emplois, ça, ça expliquait ça. Et puis peut-être qu'on a eu un petit peu de bulle immobilière aussi sur le, sur le sujet. Mais aujourd'hui, on peut se dire qu'entre la surproduction des mètres carrés de bureaux qu'on a eu ces 10 dernières années, plus le développement du télétravail, on aura certainement 20 à 30% des bureaux actuels qui risquent d'être vacants. Pour avoir quelques réflexions du côté de la défense, alors dans un contexte métropolitain parisien qui est certes différent, jamais comparable avec tous les territoires, on voit bien les difficultés. Mais quand on travaille sur d'autres villes et d'autres pôles métropolitains, je vois que ce marché-là, je vois rien qu'en passant le nombre de panneaux à vendre ou à louer qui sont présents. Donc il va falloir qu'on réinvestisse et qu'on transforme ces lieux-là.
On a un chiffre justement à peu près de la surface de mètres carrés de bureaux qui devrait être inoccupée en termes de...
Je ne sais pas le dire. Autant je sais le dire en matière de commerce parce que c'est un travail que j'ai mené pour Intercommunalité en France et je peux le dire quand même en matière de commerce. Justement, ça nous montre bien l'enjeu. En matière de commerce, on aura entre 20 et 25 millions de mètres carrés commerciaux de trop à 2035.
Dans les villes, dans les centres-villes.
Dans nos périphéries.
Dans les périphéries.
Dans nos entrées de ville. Ouais. Dans nos entrées de ville.
Il y en aura un peu dans le centre-ville quand même, parce qu'il y a des espaces où il y a des cellules vides. Mais
Je pense que dans les centres-villes, on a atteint aujourd'hui le point bas sur les locaux commerciaux vacants.
D'accord.
C'est-à-dire que la décennie qui s'est achevée, là, elle a été dramatique pour les centres-villes, pour plein de raisons. Je pense que la décennie qui va venir... va plutôt être plus favorable au centre-ville pour les raisons de proximité qu'on évoquait tout à l'heure.
Et de services à déployer.
Exactement. Et que par contre, sur les périphéries, on a intérêt à les faire muter parce que le rapport à la consommation est différent, le rapport aux mobilités est différent.
Donc c'est tous les hyper, toutes les zones commerciales,
exactement.
Où on voit qu'il y a beaucoup de changements et c'est là où il va y avoir vraiment des choses à faire. Parce qu'en plus, avec le ZAN, on ne pourra plus construire.
Exactement.
Et tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a un foncier disponible sans artificialisation qui pourra être utilisé.
Il y a une réserve énorme parce que si on rajoute les mètres carrés commerciaux qui pourront être vacants et qui seront vacants, et si on rajoute les surfaces de parking déjà artificialisées, je rappelle toujours que si on prend un actif, une zone commerciale sur une périphérie en France, on a 25% de la zone commerciale qui est du bâti, et 75% qui est la route, mais surtout du parking, déjà artificialisé. Donc effectivement, la construction de la ville de demain à l'heure du ZAN, elle ne se fera pas sur du terrain naturel, elle se fera sur du terrain déjà artificialisé ou sur du renouvellement urbain, mais les zones commerciales là-dessus, elles représentent un terrain d'investissement extrêmement important.
Tu as des exemples justement de communautés ou de villes que tu as accompagnées ou d'agglomérations où il y a eu des réussites sur ces transformations de zones à proximité des villes?
Alors, on est sur vraiment des toutes premières étapes. C'est quelque chose de très nouveau. Moi, j'accompagne une dizaine de projets aujourd'hui en France, que ce soit du côté de Lyon, du côté de Nantes, du côté de Toulon, d'Avignon, etc. De Villeneuve-d'Ascq aussi. Le sujet, on voit bien que ça intéresse, il y a un vrai sujet de modèle économique. C'est comment, au niveau des propriétaires, qui sont propriétaires de murs commerciaux, qui ont connu et qui peuvent encore connaître une rentabilité certaine, de leur dire, mais finalement, il va falloir changer de modèle. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai un locataire qui me paie. Et comment je fais? Et donc, c'est aussi de se dire, avec la collectivité, quels sont les droits à construire supplémentaires? Parce que ces zones commerciales, elles sont faiblement denses par rapport au foncier, mais elles ne montent pas en hauteur du tout. Donc, comment je vais donner des droits à construire pour faire de la verticalité? Et c'est certainement là que je vais commencer à trouver des modèles qui vont intéresser les propriétaires. Mais ce que je leur dis à chaque fois, c'est que, de toute façon, si on n'agit pas maintenant, on sait que dans 5 ans, 10 ans, la question du modèle ne se posera pas parce qu'on aura de la vacance. Donc, il faut mieux l'anticiper.
Et puis, quelle programmation aussi dans des espaces qui ont connu que de l'activité commerciale? Est-ce que ça va donner aussi, si on veut faire de l'habitat, est-ce que ça va donner envie aux gens de venir peut-être entre un stade, un carrefour, un siège social? Ça interroge aussi, ça.
Ça interroge beaucoup. Et dans les discussions, moi, avec les promoteurs que j'accompagne ou les propriétaires dans les foncières, même les collectivités, finalement, on ne va pas faire de l'habitat partout. C'est impossible. Ou alors, on va se retrouver, j'ai quelques exemples que je ne citerai pas, mais d'opérations qui sont sorties, on a mis un plot d'habitat en plein milieu d'une zone commerciale. Et puis, ce plot d'habitat, il est fermé, privatisé. Ça ne fonctionne pas. il a pas de connexion à son environnement. Donc, il va falloir se dire, on aura des transformations possibles en habitat sur certaines zones, que j'appelle les zones périphériques connectées,
oui.
C'est-à-dire qui sont en juxtaposition avec une zone d'habitat, c'est-à-dire que c'est un continuum urbain qu'on va créer. Et puis, vous avez des zones commerciales, des entrées de ville qui sont des zones déconnectées, c'est-à-dire qui sont uniquement dans une logique automobile, où il n'y a pas d'habitat autour. Et là, il ne faut surtout pas mettre de l'habitat.
Plutôt du centre logistique, peut-être.
Oui, la logistique, effectivement. On a aussi, à l'heure du ZAN, d'énormes besoins en foncier économique pour de l'artisanat, des nouvelles formes d'artisanat qui sont avec de vraies potentialités. Il y a peut-être de l'industrie verte, il y a plein d'autres leviers de croissance. Mais on ne peut pas avoir qu'un seul modèle pour la zone commerciale de demain.
Ça laisse augurer beaucoup de questions. Cette émission est beaucoup trop courte. J'ai l'impression que ça fait une minute qu'on est en train de parler et on arrive déjà au terme de cette émission. Mais ça veut dire qu'il va falloir revenir, David, parce que là, il y a énormément d'enjeux pour tous les acteurs de l'immobilier. Je crois qu'il y a juste une petite phrase, parce que c'est plein d'opportunités, tout ça, que tu nous as partagé en fin d'intervention tout à l'heure. Je crois qu'il y a ta petite maxime.
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'en ai deux. Effectivement, j'ai une première. Tout change, mais c'est pas grave.
Oui.
Et qu'effectivement, l'autre maxime, c'est de se dire qu'effectivement, ce ne sont pas les espèces ni les plus fortes ni les plus intelligentes qui construiront demain, mais celles qui sauront s'adapter. L'enjeu, c'est véritablement l'adaptation. C'est une phrase de Darwin, mais plus que jamais, elle est importante dans cette période de transformation.
Donc, plein d'opportunités à partir du moment où on est en capacité, en volonté, en agilité pour s'adapter. Et Dieu sait qu'il va en falloir, mais on est tous armés pour ça. Merci beaucoup, David, pour cet éclairage passionnant sur l'impact des nouveaux modes de vie sur nos villes. On a été beaucoup trop rapide sur plein de sujets, mais c'est pas grave. Merci d'être venu nous voir. Alors, je rappelle, David, que tu es urbaniste, sociologue et fondateur de l'agence LA, Lestou et Associés, agence dédiée à la transformation des territoires. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez cet épisode en podcast sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle interview sur Radio Immo. À bientôt.
L'interview MyImmo, Corentin Brabant.